Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant de plaisir à vous retrouver hein, tous les lundis. C'est la 140e émission aujourd'hui, une émission qui va se décomposer donc en deux parties, une partie consacrée donc au cyclisme avec notre invité donc Tristan Auroux, directeur marketing et communication de la Fédération française de cyclisme, hein, ex-président du comité départemental de Paris de cyclisme et puis vice-président aussi du Paris cycliste olympique et puis une deuxième partie où on parlera foot avec Marius que je salue. Bonsoir Marius, ça va?
Bonsoir Philippe, hein, bonsoir tout le monde.
Et puis on va saluer Théo qui a pris un petit lundi de repos, il était à la boxe samedi soir avec moi, donc voilà. Et puis notre ami Stéphane Dezenclos qu'on n'avait pas pu aussi avoir la semaine dernière, qui lui aussi a donc bénéficié d'une petite période de repos. On va saluer donc Vanessa, bonsoir Vanessa, ça va?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ouais, donc du coup tu as passé tout ton week-end devant la télé, tu as tout regardé des principaux événements sportifs.
Exactement. Hein.
Voilà, ben, c'est parfait. J'ai dit donc Tristan Auroux qui était déjà venu à ce micro il y a je crois 3 ans, bonsoir Tristan.
Bonsoir Philippe.
Merci en tout cas à nouveau d'avoir répondu à notre invitation. Alors à l'époque, je vous avais reçu comme président du comité départemental. Aujourd'hui, vous êtes entré à la Fédération française.
Oui, j'ai pris un job au niveau national à la Fédération, ce qui m'a amené à prendre un peu de recul avec mes mandats sur la ville de Paris, mais je reste... Très attentif sur tout ce qui se fait au niveau du vélo à Paris en étant toujours vice-président du club et trésorier du comité départemental. Ouais.
En tout cas, c'est un bel écrin, hein. Saint-Quentin en Yvelines, vous avez une chance de travailler là-bas. Je connais bien le site.
C'est le Vélodrome National, c'est là où on a vécu les Jeux, les JO sur la piste avec une médaille d'or et puis juste à côté le stade de BMX avec un triplé historique. Donc effectivement, c'est un lieu emblématique et un lieu magnifique pour travailler tous les jours.
Tâche passionnante à la Fédération française avec une équipe sympa, hein, le président Callot notamment, hein, Michel Callot, et puis Sylvie Pascalin qui facilite bien la tâche des journalistes quand on a affaire à elle.
Oui, bon, on a un super président, on a une super équipe, et puis, travailler à la Fédération, ça reste une association, une grosse association. Mais on vit de sa passion, c'est débordant d'événements, débordant d'enjeux aussi avec l'équipe de France, ses résultats, donc on ménage pas nos efforts, mais c'est que du bonheur.
Alors je vous ai donc convoqué fin octobre, parce que fin octobre traditionnellement c'est la fin de la saison hein, pour les routiers, même s'il y a les pistards et les cyclocrossmen qui eux par contre entrent en activité. Quel bilan peut-on faire de cette saison 2025 d'une façon générale sur le vélo, sur Paris et sur l'Île-de-France? Au niveau de sa pratique, au niveau de ses licenciés?
Sur Paris, le vélo continue de se développer à l'image du vélo en tant qu'instrument de mobilité douce à Paris. Il y a de plus en plus de licenciés. Aujourd'hui, on a une dizaine de clubs adhérents, affiliés à la Fédération française de cyclisme. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres fédérations d'ailleurs.
J'ai même lu qu'il y avait un club dans le 5e.
Absolument, à Saint-Germain. Il y a un club à Montmartre.
Oui.
Et donc, oui, tout à fait. Et donc, ça augmente. Il y a de plus en plus de personnes qui poussent les portes des clubs pour faire du vélo dans des clubs avec des éducateurs, avec des gens qui veulent vivre ensemble leur passion. Donc, effectivement, les Jeux sont passés aussi par là avec ce qu'on a vécu à Montmartre.
Il y a eu un effet quand même JO pour votre sport.
Oui. On le voit sur deux choses principalement, le BMX avec le triplé, on le voit au niveau national, il y a de plus en plus de gamins qui veulent faire du BMX, plus 10% de licenciés au niveau national. Et puis au niveau de la ville, le fait que le tour et les jeux soient passés à Montmartre amène plein de nouveaux licenciés dans les clubs, c'est incontestable.
Alors, il y a combien de licenciés cette année, en 2025, combien y a-t-il eu de licenciés? Et quand on est licencié sur Paris, comment peut-on pratiquer ce sport?
Oui, il y a 110 000 licenciés à la Fédération. Il y en a un petit millier sur Paris. Pratiquer dans un club FFC, c'est pousser la porte d'un club. C'est suivre un entraînement, suivre. Alors, un entraînement qui n'est pas forcément à la Rocky Balboa, hein, voilà, mais c'est des conseils de personnes qui vous encadrent, qui vous donnent des petits conseils, qui organisent des entraînements en groupe, qui vous permettent aussi de vous aligner sur des compétitions régionales, départementales, bah, pour vivre votre passion du mieux possible.
Et c'est des tout jeunes ?
Il y a des tout jeunes, oui. On peut commencer...
Avec des écoles de vélo, de cyclisme.
On peut commencer le vélo très très tôt, notamment sur le BMX dès l'âge de 5 ans. Et puis sur route, à peu près à l'âge de 8-9 ans, on peut faire du vélo en club.
Oui, parce qu'à un moment, on disait que le vélo, c'était un sport qui attirait plus trop les jeunes. D'abord, pour une raison, il faut prendre du temps. Quand on s'entraîne, on part 3-4 heures faire du vélo. Donc, faut prendre la route. Donc, ça peut être dangereux. C'est un sport qui coûte cher, il faut acheter le matériel. On disait que les jeunes, peut-être, ils étaient plus attirés vers d'autres sports comme ça, type justement BMX.
Tout à fait. Donc le BMX y répond à ce besoin, de cette nécessité d'avoir accès à un matériel moins cher, de pratiquer dans une enceinte sécurisée. Donc ça explique le succès du BMX qui a été donc mis en lumière grâce au triplé des Jeux. Mais je peux vous garantir que en tant que vice-président du Paris Cyclistes Olympiques, on n'a jamais fait une aussi belle rentrée sur route avec des jeunes qui c'est cher le vélo, c'est dangereux, c'est ingrat. Mais ils veulent le faire quand même.
Mais non, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'on rejoint les clubs. C'est combien une licence ?
Une licence, c'est à environ 60 euros.
Ça reste honnête.
Voilà. C'est pas ce qui coûte cher dans le vélo. Ce qui coûte cher, c'est le matériel. Et
oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut dire, il y a quand même des vélos très, très, très chers.
Il y a des vélos hors de prix, c'est de plus en plus cher. Maintenant, il y a
3 000, 4 000 euros, 5 000 euros.
Bon, c'est comme les voitures. Hein.
Ouais.
C'est comme les voitures. Maintenant, il y a un circuit de l'occasion. Donc, il y a un circuit d'entraide. Les jeunes, ils grandissent vite. Donc, très vite, leur vélo devient trop petit pour eux. Et donc, ils se le revendent. Et puis, il y a le marché de l'occasion.
Des fois, ils peuvent le redonner au petit frère, à la petite sœur.
Exactement. Et puis, nous, on loue. On a une flotte de vélos et on loue les vélos aux jeunes.
Ah, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des participations des clubs quand on commence le sport ?
C'est notre devoir. Ouais. C'est notre devoir parce que sinon... Les jeunes ne peuvent pas avoir accès à certains jeunes ne peuvent pas avoir accès à ce matériel, donc on investit pour leur offrir, enfin leur louer ces vélos.
Et le regain du BMX, vous l'avez senti à partir de quand ? Dans la décennie 2000 justement, là, ça s'est manifesté à partir de quand ?
Ça s'est manifesté depuis 5 ou 6 ans avec l'émergence des résultats de l'équipe de France qui aujourd'hui est au sommet du BMX mondial.
Ouais, et puis c'est des sports fun, c'est ce qu'aiment bien un peu les jeunes. Quoi.
Voilà, il y a de la vidéo, il y a des réseaux sociaux, il y a du contenu, il y a de la retransmission télé. Et c'est arrivé jusqu'au triplé et là, ça a explosé à la rentrée. Là.
Parce qu'à une époque, c'était un phénomène mondial, il y a très longtemps, avec le film E.T., ça avait... vraiment populariser votre sport, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Et on a besoin d'images comme ça, que ce soit de la fiction ou de la réalité.
Parce qu'il y avait une expo de Paris 2024 sur tous les nouveaux sports intégrés sur ces Jeux. Et justement, le BMX était en place d'honneur. Donc c'est pour ça que je me permets de souligner.
On voit des belles photos en plus. Oui. Ça fait un peu comme le skateboard, tout ça, ou certaines photos sur le saut à ski. Ça fait des belles photos.
Ça donne envie.
Le prix de la licence, c'est le même. Qu'on fasse donc du BMX, du VTT ou du cyclisme sur route, c'est le même.
C'est le même pour toutes les disciplines. Par contre, ça peut évoluer selon le niveau. C'est-à-dire, si on est un jeune, c'est environ 60 euros. Après, si on est en compétition au niveau régional, ça va être plutôt 120 euros. Et après, quand on est élite, professionnel, on va passer à 200-250 euros. Mais là, c'est souvent pris en charge par les clubs eux-mêmes. Donc, plus on monte, comme dans tous les sports, en compétitivité, plus la licence va être élevée.
Alors, on disait, il y a le matériel, il y a le vélo qu'on achète, mais il y a aussi le matériel parce que malheureusement, dans une saison, on tombe, on casse. Donc ça aussi, c'est un coût supplémentaire.
C'est un coût supplémentaire, mais c'est une passion. Donc quand on est passionné, on trouve des solutions. Nous, on fait des cours de mécanique dans nos clubs donc pour apprendre aux jeunes à réparer eux-mêmes leur vélo. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est comme la mécanique auto. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le matériel, c'est plutôt la main-d'œuvre.
Il y a aussi beaucoup de filles. Même en BMX, même en VTT.
De plus en plus de filles, de plus en plus de filles. Là, on est à plus de 15%. Alors, on est un sport qui n'est pas encore assez féminisé à la fédération, ça, il faut se le dire quand même. Mais il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent au vélo. On a vu le succès du Tour de France Femmes.
Oui. On en a parlé avec Marion Bunel, grâce à Pauline Ferrand-Prévot. Hein.
Bah, les audiences...
En grosse partie, 8 millions. 8 millions
extraordinaire.
De téléspectateurs et téléspectatrices pour la dernière étape. 8 millions.
Ouais. La cinquième meilleure audience de toute l'histoire d'ASO. Et donc, il y a de plus en plus de filles, de jeunes filles et des filles plus âgées qui veulent faire du vélo. Et donc, à nous de les capter et de bien les accueillir. Et d'ailleurs, au Paris Cycliste Olympique, on a lancé cette année une section féminine en recrutant une encadrante. Parce que c'est vrai que quand on fait, quand on est une fille et qu'on veut faire du vélo dans un club, eh ben, on préfère avoir une encadrante qu'un encadrant.
Alors, ça se passe comment? Quand on prend une licence à Paris pour aller s'entraîner, il faut sortir de la capitale. On ne peut pas... Bon, alors, c'est bien, il y a Vincennes, il y a Longchamp, mais enfin, on ne va pas toujours faire Vincennes et puis Longchamp.
Alors, oui, effectivement, il y a déjà ces circuits fermés qui permettent quand même d'être à l'abri de la circulation. Et puis après, bah, le vélo, c'est un sport de liberté. On est sur la voie publique et on va tout droit. Et donc, on peut piquer à l'est. Et là, on se retrouve en Seine-et-Marne, chez Disney, Vermeaux, je ne sais où, en Seine-et-Marne. Et puis sinon, on va au nord, on se retrouve dans le Val-d'Oise. On peut aller en Chevreuse. Il y a plein de spots en Île-de-France qui sont intéressants. Il faut se taper 20 km de feu rouge.
Enfin, on prend carrément RER avec son vélo.
On peut prendre les bords de Marne. Il y a plein d'astuces quand on fait du vélo. C'est un sport de liberté.
Vous faites beaucoup d'organisations de courses. Est-ce que, parce qu'on a parlé de Montmartre, mais je crois savoir qu'il y a eu des courses à Montmartre dans le passé.
Oui, il y a eu des courses. Il y avait beaucoup de courses dans Paris. Il y en a moins souvent maintenant parce que c'est toujours plus compliqué, etc.
Donc, on bloque les routes, on embête les gens, tout ça.
Voilà. Mais il y a quand même quelques courses emblématiques. Bon, il y a déjà le Tour de France.
Oui, mais on va en reparler.
On va en reparler. On organise au pied de la Tour Montparnasse un critérium de haut niveau chaque année au mois de juin.
Ah, ça doit être
devant les terrasses, boulevard Edgar Quinet. C'est une ambiance de kermesse, de folie.
Ah oui, ça doit être sympa.
On organise les mercredis populaires à la Cipale, au vélodrome de la Cipale, le siège du club dans le 12e, pour les jeunes. Donc, ils s'initient à la piste. Et puis, troisième exemple, on organise au polygone de Vincennes 2 jours de vélo pour toutes les catégories, avec notamment les championnats départementaux.
Donc, c'est ce que j'allais dire,
Et c'est plus dur d'organiser qu'avant, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contraintes administratives, même financières. Est-ce qu'il y a même sur Paris, il y a beaucoup moins de courses qu'avant?
Je pense que c'est pas plus dur, c'est qu'on a moins de dirigeants bénévoles engagés. Quand on a une équipe qui veut faire quelque chose, alors oui, il y a plus de législation, il y a plus de ci, il y a plus de ça, mais il y a plein de trucs plus faciles aussi. Donc il faut avoir, quand on a l'équipe, on peut le faire. Et ce qui nous manque parfois dans les associations, mais pas que le vélo, c'est des dirigeants bénévoles engagés dans la durée qui se bougent pour sortir un week-end sur la voie publique pour garder un carrefour, tenir une buvette, etc. Et ça peut être valable dans d'autres sports.
Parce qu'il faut dire, on bloque les routes, on bloque les gens, donc des fois on se fait un petit peu engueuler, comme on dit.
On se fait un peu chahuter.
Quand on garde un carrefour, même s'il y a des arrêtés préfectoraux.
Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de... Effectivement, les automobilistes, c'est l'individualisme qui est de plus en plus présent. Maintenant, encore une fois, quand on fait bien les choses, on a la marée-chaussée qui n'est jamais loin, on organise au bon endroit, on ne bloque pas trop de carrefours. Donc, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est une question de volonté et surtout de staff.
Et puis, il y a aussi un problème, c'est qu'il faut se déplacer pour aller courir. Donc, il faut faire beaucoup de kilomètres. Des fois, les papas-mamans, c'est aussi un budget au niveau de l'essence pour aller courir en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans l'Essonne.
Ah, ça, c'est un vrai problème que tu pointes, Philippe, parce que les Parisiens n'ont plus de voiture. Et donc, quand il s'agit d'aller courir en Seine-et-Marne ou dans le Val-d'Oise, là, c'est plus compliqué. Alors, nous, on a la chance au club d'avoir un véhicule, un minibus qui emmène les jeunes. Il y a du covoiturage. Et puis, il y en a qui vont en train, notamment les jeunes en bande, ils vont en train, en RER, parce que c'est des passionnés, ou même à vélo.
D'accord. Et je vous glisse une info, Philippe. Ouais. Paris, première ville européenne en termes de pistes cyclables. Alors là, on ne parle pas spécifiquement du BMX, mais en tous les cas...
Amsterdam, ça va Copenhague, ça va Montréal.
On vient de les battre. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à Paris, on peut faire du vélo. Alors, après, le BMX, c'est encore autre chose, mais juste à côté, là, pas très loin, il y a le bois de Vincennes. Donc, voilà.
Alors justement, est-ce que c'est dans la mouvance, dans la tendance, on le sait aujourd'hui, d'être un peu plus écologique, de rouler un peu plus écolo, c'est bien, vous accompagnez tout ça aussi à travers votre sport?
Quand on met les Parisiens à vélo.
Parce que c'est vrai que faire du vélo il y a 20 ans, enfin je veux dire se déplacer il y a 20 ans, 25 ans, c'était ringard quoi. On regardait les gens, on dit il y a 30 ans, pourquoi ils se déplacent à vélo ? Maintenant c'est complètement tendance.
Oui, bah, surtout oui. En zone urbaine où il y a de plus en plus de pollution, de plus en plus de trafic. Donc mettre les personnes urbaines qui vivent en milieu urbain sur un vélo, bah, ça permet de dépolluer, ça permet de désenclaver. Et donc nous, tous les clubs de vélo dans toutes les zones urbaines accompagnent cette dynamique en faisant ce qu'on appelle des remises en selle. Donc c'est avec des entreprises, on met les collaborateurs de l'entreprise sur un vélo pour développer le vélo taf. Ou alors le savoir rouler à vélo dans les écoles, où on apprend une formation de 10 heures à tous les enfants en école primaire à utiliser un vélo sur la voie publique. Et donc ça, c'est capital, parce qu'on forme demain les usagers. Et puis quand on forme les enfants, on forme les parents aussi.
Ça bien fait sûr. Partie des fondamentaux avec le savoir nager.
Voilà. Oui, alors ça peut faire merci peur Vanessa. Aussi aux parents de faire du vélo, parce que justement... Il y a des automobilistes pas toujours très sympas, c'est moins qu'on puisse dire, irascibles. Ça peut faire peur aussi quand on voit ses enfants prendre la route comme ça pour aller s'entraîner 3-4 heures.
Tout à fait. Et donc ça, c'est un travail, là, plutôt au niveau national, qu'on développe avec la sécurité routière, avec une convention au niveau national, pour travailler aussi sur le permis de conduire, sur les infractions que peuvent et la pénalisation aussi des automobilistes. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que les automobilistes comprennent qu'ils ont une voiture entre les mains et que cette voiture peut faire mal, même si tout le monde, et je dis bien automobilistes, piétons et cyclistes, doivent apprendre à se respecter et à partager
parce
la même voie publique.
Parce que chacun doit respecter le code de la route.
C'est valable
même les cyclistes,
aussi pour les cyclistes.
C'est du 50-50 aussi.
Complètement
voilà.
D'accord.
Oui. Hein, parce que c'est un petit peu le problème parfois.
C'est partager
côtés,
la route
quoi.
Ensemble.
Mm-hmm. Ouais. Donc, au niveau organisation, quelles sont celles qui sont peut-être prévues en 2026 ? Est-ce qu'il y a des nouvelles pour bénéficier justement de l'impact Tour de France rue Le Pic à Montmartre ?
Bah, nous, on a un projet, alors je ne sais pas s'il va se faire en 2026, mais on y travaille avec plusieurs clubs. Ce serait d'organiser une course pour les amateurs et toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à Montmartre, justement, en répétition.
Un petit peu comme le marathon pour tous au jeu 2024. Quoi.
Exactement, en répétition de la dernière étape du tour qu'emprunte la butte Montmartre, qui a quand même démontré qu'on pouvait faire des grandes choses à Paris. En termes d'événementiel cycliste.
Ouais. Et c'est bizarre parce que pendant des années, quand on suivait la dernière étape du Tour de France, souvent comme nous, on se disait, mais ouais, bon, ça va finir au sprint, hein. On pourrait quand même trouver des parcours. Et tout le monde disait, mais non, c'est pas possible, il a fallu les Jeux, eux, ça a été possible. Et finalement, avec le tel succès que, le Tour, il a été obligé de se caler dessus. Hein.
C'est ce que je disais.
Et ça fait un beau spectacle.
Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et les Jeux ont permis ça. Ils ont dévoilé des ambitions qu'on peut-être on n'osait pas se donner.
Mmh. Alors, il y a des projets aussi, j'allais dire presque dans l'héritage des Jeux, peut-être pour faire une grande piste sur Paris pour le micro, pour le BMX.
Oui, nous, au niveau des instances du vélo à Paris, on pousse plusieurs choses. On pousse la création d'une piste de BMX à Paris parce qu'on a eu ce triplé. Il n'y a pas d'équipement comme ça dans Paris. Et franchement, si on avait ça, je peux vous dire que ce serait ultra fréquenté. Des pump tracks. Aujourd'hui, toutes les villes développent des pump tracks. Ça attire les jeunes sur ces équipements. Et puis, on veut, et on y travaille, créer une maison du vélo au vélodrome de la Cipale.
Ça, c'est bien.
Une sorte de coffee ride où les gens pourraient venir prendre un café, prendre une bière, un petit casse-croûte et en même temps... vivre quelque chose ensemble au sein de ce tiers-lieu où on pourrait faire un peu de mécanique aussi, des événementiels. Et donc ça, on y travaille avec la ville également.
Oui, parce que ça fait partie du patrimoine, la Cipale. Hein. Il faut dire que le Tour de France, il est arrivé très longtemps à la Cipale. Hein. C'était la dernière étape avant, donc 75. Et c'est vrai que c'est mythique, même si aujourd'hui... dans quel état est la piste ?
C'est un lieu magnifique, c'est un monument classé historique. La piste, bon...
Parce qu'à un moment, il paraît que c'était pas...
On l'a sauvée à un moment donné, et donc maintenant, elle est praticable. On peut rouler dessus, il n'y a pas de problème. Il y avait les tribunes qui étaient en mauvais état, mais la ville de Paris, pour le coup, a investi fortement pour les réhabiliter. Oui. Donc, il va y avoir des gros travaux à la Cipale prochainement. Et quand tout ça sera fini, eh ben, il sera pleinement utilisable eh ben, pour retrouver son lustre d'antan et tout son dynamisme d'antan.
Alors, vous parliez donc de l'essor du BMX. Est-ce que le VTT et est-ce que le vélo sur piste, ça plaît aussi?
Alors, le VTT à Paris, c'est moins la pratique. Maintenant, je reviens du Roc d'Azur. Oui. Il y avait 30 000 participants. Donc, je peux vous dire que le VTT, ça reste une pratique importante en France, avec un circuit très structuré, des pratiquants dans tous les sens. Il y a le gravel qui est en train d'émerger.
Ça plaît bien. Qui est en train d'exploser. Pareil, il y a une dizaine d'années, on serait allé dans les chemins forestiers. On aurait dit, mais vous êtes fous, quoi.
Voilà. Hein? Et donc, ça se développe à fond les ballons. On a organisé d'ailleurs le premier championnat de France de gravel cette année à Châtellerault. Et puis pour la piste, ça reste une affaire de spécialiste. Oui. Ça a toujours été une affaire de spécialiste et ça reste une affaire de spécialiste.
Alors, il y a des résultats qui sont un petit peu décevants actuellement. Ça ne va pas attirer du monde. Hein, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des locomotives. S'il n'y a pas de locomotives, fatalement, il y aura beaucoup moins de pratiquants.
C'est vrai que les résultats ils sont moindres que ce qu'on a pu avoir dans les années 90-2000.
Oui. Même 2015, hein, quand il y a eu la première édition des championnats mondiaux sur piste, il y avait une embellie. Malheureusement, ça c'est ensuite.
Après, il y a des histoires de génération, il y a de la concurrence internationale qui s'affûte.
Il y a des problèmes aussi au sein des organisations, de l'équipe.
Oui, mais bon, c'est tout le temps comme ça, si vous voulez. Mais je dirais, c'est quand l'appétit va, tout va. Quoi, hein. Donc quand ça marche un peu moins bien, il peut y avoir des tensions. En tout cas, on est en train de la direction technique nationale de reconstruire une génération pour Los Angeles et surtout Brisbane derrière en 2032. Oui. Et. Bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas ces performances, j'espère le plus rapidement possible, qu'on a connues il y a quelques temps.
Et pour la route, bah, pour attirer encore davantage de monde, on attend toujours un Français vainqueur du Tour de France. Depuis 40 ans, depuis Bernard Hinault.
Ouais, et j'ai envie de vous,
Noah
de vous dire.
Noah pour le tennis, Hinault pour le vélo.
J'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais été aussi près.
Oui.
De tenir ce potentiel-là en la personne de Paul Sexas, qui a montré sur les derniers championnats d'Europe, troisième derrière Pogacar et Remco. Et ça, à 19 ans. Mm-hmm. À 19 ans, c'est absolument exceptionnel ce qu'il fait. Donc, on espère qu'il va continuer à performer. En tout cas, il n'a jamais déçu à chaque fois qu'on l'attendait. Il était toujours là.
Mm-hmm. Non, tu en penses quoi, toi?
Bah, moi, j'ai
le
pas.
Vélo, ça t'inspire? Pas trop.
J'ai pas trop d'affinité avec le vélo, mais dans Paris, moi, c'est
le
mon...
Le Tour de France, tu suis quand même.
Bien sûr, Et je suis même allé voir à Montmartre la dernière étape. C'était le spectacle, franchement, incroyable. Et justement, moi, ce qui m'impressionne, c'est la performance, vraiment, dans ce sport. Et même les triples médailles au JO en BMX, moi, j'étais choqué devant ma télé. Après, moi, personnellement, j'utilise plus ça comme un moyen de me déplacer. Pas forcément... Pour faire du sport, mais à Paris, en tout cas, même pour faire des petits trajets, je l'utilise au lieu du métro ou d'autres moyens.
Ouais. L'amour du vélo que vous êtes, le régal actuellement devant les courses cyclistes, c'est vrai qu'on a une génération quand même aujourd'hui où les courses sont beaucoup moins stéréotypées. Quoi. Ça attaque de loin, 70-80 km, que ce soit Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel, ça attaque de loin, quoi.
On retrouve un cyclisme épique avec des super champions qui sont les meilleurs et qui prennent des risques, qui attaquent de loin. Pogacar à 70 km, c'est sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas le seul.
Non.
Comme tu le disais, Evenepoel, Van Der Poel.
Oui, oui.
Et puis on a des Français. Donc c'est vrai que quand on est Français, évidemment, on est supporter. On a vu ce qu'a fait Pauline Ferrand-Prévot et toutes les autres Françaises. Maëva Skiban.
Ah, c'est une guerrière, c'est une vraie guerrière. Hein.
Voilà, Maëva Skiban, deux étapes, et puis il faut voir comment elle les a gagnées. Donc, à l'offensive, donc on retrouve un cyclisme offensif. Alors, effectivement, c'est quand même souvent Pogacar qui gagne à la fin. Mais bon.
De tout temps, il y a eu des.
Il y a toujours eu, voilà.
Hein, Merckx, il gagnait. Exactement. Il a écrasé tout. Nguyen écrasé. Pareil pour Hinault. Bon, après, voilà.
Mais on ne s'ennuie pas devant la télé.
Voilà, c'est ça.
On ne s'ennuie pas, ils prennent des risques.
Ils prennent des risques. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et ils s'amusent.
Ouais.
Et ça se voit.
Oui. Et on voit, avec le sourire, effectivement, ils prennent du plaisir dans leur métier. Alors, justement, le Tour de France, c'est la vitrine quand même. Ça.
Bah, le Tour de France.
Ça cache tout le reste. C'est plus un.
Ah oui, le Tour de France, c'est l'événement...
Troisième événement mondial, après les Jeux et la Coupe du Monde.
C'est un événement absolument exceptionnel. Mm-hmm. Je dirais les Tours de France, parce que maintenant, il y a le Tour de France femme aussi, qui a pris une dimension énorme. Donc effectivement, c'est le Tour, quoi. Hein. Mm-hmm. Le maillot jaune, c'est la légende.
Ouais. Mm-hmm. Alors, c'était donc la présentation porte-maillot Palais des Congrès, donc jeudi. Hein. Alors, ça sera le 27e départ de l'étranger, le 3e d'Espagne. Il y aura 7 régions et 29 départements qui seront visités. Alors, c'est un tour qui se décompose quand même plutôt bien. 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne. 8 étapes de montagne avec 5 arrivées donc, en altitude. Alors, il y aura Gavarnie, il y aura Gidre, il y aura le plateau de Salaison, Orcières-Merlette et deux fois... Alexandre Pasteur nous l'avait dit la semaine dernière. Il y aurait deux fois donc l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Ça, c'est du jamais vu quand même. Hein.
C'est un tour qui va crescendo. Ouais. Et donc, la double arrivée dont tu parles a lieu à la fin.
Oui, mais en plus.
Et donc, ça va ménager le suspense. Mmh. Moi, la seule critique que je peux faire au tracé du Tour de France depuis quelques années, c'est qu'il n'y a pas assez de contre-la-montre plat assez long. Oui. Et donc, finalement, ça ne favorise pas les adversaires de Pogacar.
Je crois parce que c'est un petit peu passé de mode, ça.
Et ça pourrait quand même favoriser ses adversaires, notamment Remco Evenepoel, pour qu'il puisse un peu prendre du temps à Pogacar.
Oui, parce que sur le plat, c'est encore le meilleur rouleur. Il bat Pogacar. Dès que ça monte un peu, c'est Pogacar qui prend le dessus.
Voilà, faudrait lui en mettre un petit peu à lui aussi quand même.
Alors, il y aura justement quand même la première journée, un contre-la-montre par équipe. Ça, c'est, on en avait perdu l'habitude. Et justement, un seul contre-la-montre individuel. Il y aura deux journées de repos, ça c'est classique. Et ça sera une distance de 3333 km du 4 juillet au 26 juillet. Alors, on a demandé donc à... Allez, un champion mythique, il a gagné deux fois le Tour de France, Bernard Thévenet, ce qu'il pensait donc de cette carte du Tour 2026. On va écouter donc Bernard Thévenet. Bernard Thévenet, comment vous avez trouvé ce Tour 2026 dans sa présentation?
J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de dénivelé, mais sur l'ensemble du Tour, il n'y a pas plus de dénivelé que les autres années. Par contre, dans les étapes de montagne, souvent il y a plus de dénivelé, les étapes. Les étapes de montagne vont peut-être être plus dures que ces dernières années. Par contre, il y a 7 étapes qui peuvent sourire aux sprinters, ce qui était devenu rare ces dernières années. Il n'y avait qu'à tous 5 seulement. Donc, c'est un challenge un petit peu différent. Ça laisse un peu plus de liberté aux équipes de... Enfin, un peu plus de chance, pardon, aux équipes de sprinters. Mais on sait aussi que ces équipes-là ont tendance à bloquer la course. Donc, ça peut aussi intéresser les... ceux qui se battent pour le classement général, parce qu'ils sauront que dans les étapes de plat, il y a d'autres équipes qui travailleront pour eux. Oui. Donc ça leur permettra d'être encore plus efficaces en montagne.
Oui, il y a déjà les angles en première partie de tour, donc déjà les principaux favoris qui vont se positionner avant une dernière semaine complètement folle avec ces deux montées sur l'Alpe d'Huez.
Oui, il y a déjà le contre-la-montre par équipe qui va permettre aux équipes qui ont... Il y a des équipes qui ont deux leaders. Ces équipes-là, ça va, je pense, leur permettre de bien placer leurs deux leaders. Et bon, par contre, après, ça, la montagne arrive vite, dès la troisième étape, avec l'arrivée aux angles. Après, il y a une arrivée à Otakam. Tout ça fait que ça va créer des écarts, ça c'est certain. Où les grimpeurs sont avantagés. Mais bon, c'est que le tout début du tour, il faut tenir 3 semaines dans le tour. Hein. Donc, les coureurs qui seront en très bonne condition physique dès les premiers jours, peut-être qu'ils seront un peu moins bien sur la fin.
Et très peu de contre-la-montre.
Il y a peu de contre-la-montre. C'est plus dans...
Par rapport à votre époque, Bernard.
C'est plus dans l'air du temps. Ouais. C'est plus dans l'air du temps. Dans le temps, il y avait un peu plus de 100 km contre-la-montre. Pas d'étape de 100 km, forcément. Mais il y avait toujours au moins un contre-la-montre par semaine. Et en tout, ça faisait à peu près 120 km de contre-la-montre. Maintenant, il y en a moins peut-être parce que les étapes contre la montre sont moins intéressantes à suivre. Peut-être aussi pour éviter, comme il y a eu quelques années, où les coureurs contre la montre faisaient un tel écart en contre la montre qu'on ne pouvait pas aller tuer un peu le suspense parce qu'on ne peut pas les rechercher en montagne. Mm-hmm. Bon, cela dit, maintenant, Pogacar tue le suspense en montagne aussi. Donc.
Oui, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes quand même pour la victoire finale. Et Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, est-ce que les Français peuvent jouer un rôle à ce Texas?
Les Français viendront dans 2-3 ans, je pense. Mais là, pour l'instant, ils sont encore trop jeunes. On a de très, très bons coureurs en France, ils sont très, très jeunes. Et notamment pour Sexa, je pense que ce serait une heure de lancer dans le Tour de France dès l'année prochaine. on a le temps, il faut savoir être patient, il faut savoir attendre son heure, pas aller trop tôt. Pour en mettre Paul Sexas dans le Giro, dans les Vuelta par exemple, où il est moins exposé médiatiquement et où il pourra s'exprimer plus facilement que dans le Tour de France.
Bernard, on a quand même une génération fabuleuse, hein. Il y a de la bataille, on a des jeunes maintenant qui réattaquent comme à votre époque à 70-80 km de l'arrivée.
Oui, on a une génération fabuleuse, mais malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a un garçon comme Paul Magnier qui a gagné 19 courses. Il y a je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas des Français qu'on fait aussi bien. On a des très bons coureurs. On a Lenny Martinez aussi qui gagnera pas le Tour de France à mon avis, mais ouais. Il sera un peu plus costaud l'an prochain. Il peut gagner l'étape du Tour. Mmh. On a une très bonne génération de coureurs qui arrivent. Mais on attend un petit peu trop en France. On attend un peu trop qu'ils fassent quelque chose dans le Tour de France. Tour de France, c'est la plus grande épreuve du monde, mais il n'y a pas que ça.
Oui, alors justement, il y a quand même un souci. Il y a des équipes cyclistes qui disparaissent et des sponsors qui ont du mal à revenir. C'est inquiétant quand même.
Bah, ça, à mon humble avis, c'est pas un problème qui est uniquement dû au cyclisme. C'est un problème mondial. C'est dû à la mondialisation, justement. Parce que vous avez des équipes qui sont montées à Bahreïn, par exemple. Hein. Tout le monde sait que tout le monde fait du vélo à Bahreïn, non? Aux États Arabes Unis aussi. Malheureusement, hein, des équipes sont venues qui ont mis des surenchères. Ça fait qu'une équipe cycliste, ça coûte très très cher. Mais finalement, il y a des endroits en Europe, ils ne peuvent pas suivre. C'est quand même paradoxe. Il n'y a pas d'équipe italienne dans le World Tour, par exemple. Hein. Il y a des coureurs italiens. Ils courent dans des équipes des États Arabes Unis, des équipes d'Astana, des équipes de ces gens-là. Mais malheureusement, il n'y a pas de firme italienne qui est assez forte pour pouvoir faire une équipe de cyclisme. Nous avons perdu Arkea, notamment. Hein. Nous avons Cofidis aussi qui est redescendu en deuxième division.
Et Direct Energy l'année prochaine qui devra trouver une autre équipe.
Aussi, oui. On arrive que il faut s'attendre à ce qu'en Europe, on perde des équipes au profit d'équipes des États Arabes Unis, peut-être américains, peut-être chinois plus tard, je ne sais pas, hein, il y aura peut-être des chinois aussi un jour. Chinois va se dire, tiens, mais finalement, le vélo, ça fait une pub mondiale qui ne coûte pas cher quand on regarde bien. Ça ne coûte pas très cher. Donc, moi, j'ai peur un peu de ça, c'est qu'il faut absolument que l'Europe, la vieille Europe, puisque c'est nous qui avons commencé la course cycliste, il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à compenser ça, et ça ne va pas être facile. Ce n'est pas un problème qui est inhérent uniquement au cyclisme.
Dernier petit mot, le succès du Tour féminin maintenant. C'est bien la quatrième semaine du Tour de France.
Ah ben oui. Non, mais je suis allé l'année dernière. Il y a un succès phénoménal hein, dans le Tour de France féminin. Il y a un engouement pour les spectateurs. Et je trouve en plus que dans les spectateurs, ils sont plus sportifs que dans le Tour masculin. Dans le Tour masculin, il y a des gens qui viennent là pour faire la fête, ils font n'importe quoi. Que les gens sont beaucoup plus respectueux sur le Tour féminin.
Merci Bernard. Voilà pour Bernard Thévenet, un petit mot sur ce qu'il vient de dire, notamment sur la mondialisation, Tristan, du vélo. Malheureusement, c'est un sport qui ne peut pas y échapper.
Non, le vélo se mondialise en termes de circuit de course, mais c'est devenu un sport mondial, donc c'est normal. Après, il y a des gros acteurs du Golfe, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, du continent américain, qui viennent effectivement avec des gros moyens financiers, parce que pour eux, c'est aussi un moyen de soft power, d'avoir une parce que le vélo est un sport où la marque est dans le nom de l'équipe. Et donc ça, c'est très intéressant pour ces industries-là, ces pays-là. Donc effectivement, il faut que l'Europe s'aligne. Mais on le voit avec Decathlon, CMA-CGM, qui se sont alliés pour faire une équipe quand même dont le budget va être à 45 millions, ouais. 50 millions.
Ça va devenir peut-être l'équipe la plus importante, hein. Dans les années qui viennent, peut-être.
En tout cas, dans les cinq premiers, quoi. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'en France, avec les charges, avec ceci, avec cela, on peut quand même jouer.
Mm-hmm. Allez, on va écouter maintenant celui qui ne sera pas sur le Tour 2026, tout du moins comme coureur. Peut-être le sera-t-il donc comme suiveur au sein de Daiso. C'est Adrien Petit qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière. Ce Tour de France, vous le vivrez différemment l'année prochaine?
Ouais, c'est sûr, ça va être différent. Ça va être tout aussi bien, moins stressant. Déjà cette année, je l'avais laissé de côté, mais bon, j'étais encore en carrière, donc c'était différent. Là, le fait d'être vraiment de l'autre côté de la barrière, voilà, je vais le vivre vraiment pleinement. Et puis, voilà, forcément, c'est un événement que je vais suivre très
bien. Comme consultant, peut-être, ou au sein de la caravane?
Ça ne sera pas comme consultant, enfin, tout du moins, moi qui ai retourné ma situation. Mais non, ouais, là, je vais passer des diplômes cet hiver. Et déjà pour avoir les diplômes de directeur sportif et puis peut-être avec ISO, on verra comment ça se goupille, mais voilà, je me laisse une année de réflexion sur mes choix.
Oui. Sur le parcours du Tour, là tu viens de voir, c'est, t'en penses quoi? Une dernière semaine quand même très rude.
Bah, même un départ très rude, ouais. J'ai envie de dire, parce que déjà les trois premiers jours ils sont très exigeants, ces arrivées dures. Quand on voit que les sprinteurs, leur première journée de sprint, je crois, sera le mercredi, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire la sixième étape, cinquième étape. Non, ça va être un tour compliqué, mais bon, après des arrivées mythiques, l'Alpe d'Huez, voilà, le retour de l'Alpe d'Huez, ça va être magnifique et ça va être un beau tour.
Il peut le perdre où, Pogacar, ce tour?
Que dire, à part s'il est fort comme cette année. C'est difficile à imaginer un endroit où il peut le perdre. Après, voilà, on sait que Tour de France, il y a de la nervosité, il y a des chutes, il y a des bordures, il y a des choses comme ça. À la limite, il y a plus de pourcentage de chances qu'il le perde. C'est plus sur une chute que sur une défaillance. Donc non, il est tellement fort là à l'heure actuelle que sans pépin, il sera difficile à battre.
Et nos coureurs français, ce seront les victoires d'étape à nouveau?
Ouais, je pense qu'il faut laisser mûrir notre pépite qu'on a. Je pense qu'elle ne sera pas sur le tour dès cette année, Paul Sexas. On va le laisser mûrir et le faire revenir tranquillement plus tard. Mais bon, cette année, pour l'année prochaine, ouais, j'imagine que ce sera encore pour les victoires d'étape et le maillot à poids.
Adrien, il n'y aura pas, c'est sûr, un petit manque dès le mois de mars?
Je peux pas le garantir, hein, mais non, j'y suis préparé à cette retraite. Voilà, ça faisait déjà 2 années que j'y réfléchissais pleinement. Et là, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'avais de moins en moins d'aptitude à frotter. J'avais de plus en plus peur dans le peloton. Et voilà, ça roule de plus en plus vite. Il faut laisser la place aux jeunes qui sont prêts à prendre des risques. Et moi, c'était plus mon cas.
Et pour les équipes françaises qui disparaissent, malheureusement, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant pour la suite?
Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Ça fait plusieurs années qu'il y a un gros décalage entre les équipes des Émirats et qu'ils ont des budgets à rallonge et les équipes françaises. C'est de plus en plus compliqué à survivre, mais il faut croiser les doigts pour. On voit comme AG2R qui se développe, qui va évoluer d'un sacré coup, c'est déjà une bonne chose. Il faudrait que ça soit dans la même optique avec les autres équipes.
Vous allez quand même continuer à faire un peu de vélo dans d'autres disciplines?
Ouais,
certains le font.
Je pense que je vais continuer à rouler, mais pas en compétition ou très peu. Mais pourquoi pas faire peut-être un peu de VTT sable je suis natif du Nord, donc dans le Nord de la France, c'est réputé, les courses de VTT sable. Ou sinon un peu de gravel aussi, mais je ne ferai plus beaucoup de route.
Plus faire trop mal, quoi.
Non, peut-être un peu de course à pied et du trail, ça me donne envie, ouais.
Voilà. Merci en tout cas, Adrien. Voilà pour Adrien Petit, que de toute façon, ils continueront toujours à faire du sport. Hein. On en voit beaucoup hein, qui passent à la course à pied ou qui vont sur gravel. Effectivement, allez, un qui a été un des héros de cette année 2025, c'est celui qui a gagné à la mythique étape du Mont Ventoux, donc Valentin Paré-Peintre. Et on lui a demandé ce qu'il avait déjà retenu sur cette carte du Tour 2026.
Je l'apprécie pas mal, surtout cette dernière semaine où on va arriver proche de chez moi et avec vraiment des étapes, beaucoup de dénivelé et des longues montées comme j'aime bien. Donc non, j'aime plutôt bien la carte.
En dernier, c'était le Ventoux. Cette année, ce sera quoi si vous devez en choisir une?
En choisir une, l'Alpe d'Huez, ça marche, même s'il y en a deux.
Et surtout que tu auras deux chances.
C'est ça, on aura deux chances d'ajouter l'Alpe d'Huez à son palmarès. Et c'est vrai que je pense que ça fait bien sur un palmarès de gagner au Mont Ventoux et à l'Alpe d'Huez, donc c'est sûr que j'essaierai.
Qu'est-ce que ça représente l'Alpe d'Huez ?
Je pense que quand on parle d'une montagne mythique en France, il y a le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez, c'est vraiment les deux cols les plus connus. Donc voilà, pour moi ça représente beaucoup. C'est aussi plus proche d'où j'ai grandi que le Mont Ventoux. Donc c'est sûr que j'aurai beaucoup d'envie sur ces deux journées-là.
Le départ de Remco de l'équipe, ça doit vous ouvrir sans doute quelques opportunités supplémentaires.
Ouais, c'est sûr, on verra comment l'année se passe, mais j'aurai sûrement plus d'opportunités et aussi plus de responsabilités sur les courses tout au long de l'année. Pour le Tour de France, je pense qu'on n'aura pas vraiment de leader pour le général. On verra comment l'année s'articule, mais je pense que ce sera surtout pour les victoires d'étape avec Team et aussi dans la montagne avec les grimpeurs de l'équipe.
Et oui, cette Gare du Tour 2026, ça l'inspire et surtout, naturellement, hein, cette étape mythique de l'Alpe d'Huez après celle gagnée cette année au Mont Ventoux. On va écouter le François Mouton, tiens, le maire de Thoiry. Pourquoi ? Parce que Thoiry recevra la dernière étape. Ça sera le lieu de départ de cette dernière étape qui nous emmènera justement à Paris via la rue Le Pic à Montmartre. Et naturellement, eh bien, monsieur le maire, même s'il y a des élections municipales, il espère bien être de cette belle fête. Bon, monsieur le maire, c'est une belle reconnaissance pour la ville de Thoiry.
C'est une chance absolument très importante et je remercie d'ailleurs le président de Bédier et puis Christian Prudhomme, deux amis qui donnent à Thoiry un éclairage magnifique.
Oui, ça faisait longtemps que vous étiez candidat pour cette dernière étape.
Non, mais on sait que Thoiry est toujours présent dès qu'il y a des choses importantes à prévoir et donc on est toujours candidat à l'excellence.
Oui, donc ça va être une fête immense, on va prévoir tout un week-end de fête, hein, fin juillet.
Et puis c'est à la fois mise en valeur de Thoiry, mise en valeur du parc zoologique, mise en valeur des Thoirysiens, donc c'est extraordinaire, tout le monde est extrêmement content.
Oui, parlez-nous un peu de la vie sportive de votre village, il y a une vie assez importante.
Écoutez, on a un petit village puisque nous sommes que 1500, on a un gymnase multisport en dur, on a un tennis couvert. On a 23 associations sportives et on est en train de construire un dojo. Donc on met toujours le paquet sur le sport. Oui. Après les écoles. Les écoles d'abord et le sport tout de suite après.
Et pour vous, le Tour, c'est une fête, c'est un feuilleton. Tout l'été, vous organisez vos journées par rapport au Tour de France ?
Alors comme vous le savez, il y a des élections en mars et que donc c'est pas si simple que ça. Mais si vous voulez, pour moi, le Tour, c'est pas seulement une épreuve sportive. C'est aussi une rencontre sociale avec des gens de tout horizon qui communiquent dans ce goût du sport, mais aussi dans ce goût de se retrouver. Et pour moi, c'est aussi important que le côté sportif.
Et comme disait pourtant Christian Prudhomme, on ne trouve que des gens qui ont le sourire pendant ces 3 semaines.
Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le Tour. C'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Mais vraiment, au point de vue humain, c'est une expérience. Et donc, la faire vivre à Thoiry, pour moi, c'est...
Ouais, ça sera très bien de faire vivre effectivement cette expérience humaine à Thoiry de la part donc de François Mouton, le maire de Thoiry. Thoiry, c'est bien les Yvelines comme ça chaque année. C'est des terres de vélo. C'est une terre de vélo.
La Chevreuse.
Ouais. Bah oui.
Donc la
ouais.
Chevreuse, pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment y aller parce qu'il y a des routes superbes. Mmh. Il y a des endroits mythiques. Mmh. Et donc Thoiry, c'est vraiment un lieu sympa pour faire le départ de cette dernière étape.
Allez, on parlait des féminines, on parlait de cette 4e semaine. Il y aura cette 4e semaine consacrée aux féminines du 1er août au 9 août. Alors là, ça sera un départ de Suisse, de Lausanne, une arrivée à Nice qui a déjà reçu donc l'arrivée du Tour de France hommes. Donc deux pays seront traversés, la Suisse et la France, avec donc des cols qui seront empruntés dans les 3 gros massifs, le Jura, le Massif Central et les Alpes. Donc il y aura 3 étapes de plaine, 3 étapes accidentées, 2 étapes de montagne et aussi un contre-la-montre, soit donc 9 étapes au total, avec notamment aussi la célèbre montée du Mont Ventoux le 7 août, donc le vendredi 7 août. Alors il y aura 12 départements et 3 régions visitées, ce qui fera au total une distance de 1175 km. Alors on a demandé à Marion Bunel comment elle vivait, elle, la perspective de ce Tour 2020. 26. Marion, la présentation de ce Tour 2026, il vous inspire ?
Ah oui, oui, très inspirant. Le Mont Ventoux, l'arrivée à Nice, le départ de Suisse, c'est plein d'éléments qui peuvent faire une excellente édition. Donc il y a de quoi bien réfléchir cet hiver, à savoir comment est-ce qu'on peut se préparer pour être au mieux sur l'événement.
C'est un Tour qui vous plaît, vous, personnellement, qui vous convient bien ?
Oui, il me plaît énormément, simplement parce qu'il y a le Mont Ventoux. L'arrivée à Nice aussi me paraît très intéressante, particulièrement la dernière étape. Et après, il y a aussi d'autres étapes de plaine assez longues. Et puis, il y a aussi l'étape du chrono qu'il va falloir que je me concentre aussi dans l'optique où je fais le Tour de France pour essayer d'être au mieux là-dessus.
Oui, parce que le Mont Ventoux, c'est mythique. Quand vous avez commencé le vélo, est-ce qu'un jour vous pensiez monter ce Mont Chauve en compétition ?
En compétition, je sais pas. Mais en tout cas, quand je l'ai monté avec mon père, c'était déjà un moment très spécial où on le ressent en tant que cycliste en montant que c'est pas n'importe quoi. Après, il faut encore y être au Tour de France. Il faut y participer. Mais si c'était le cas cette année, ce serait excellent de pouvoir rouler sur le Mont Ventoux, c'est clair.
Oui, puis il y a l'arrivée à Nice aussi. Ça aussi, c'est mythique.
Oui, je pense que l'arrivée à Nice déjà de l'année 2024 chez les hommes a montré que c'était un très bel emplacement pour une arrivée. Donc là, c'est clair que ça donne envie aussi d'être aussi performant.
Oui, et puis ce Tour de France, c'est maintenant féminin, la quatrième semaine de l'été. Hein. C'est vraiment aujourd'hui entrée dans les mœurs.
Oui, je pense que le Tour de France féminin bénéficie aussi de tout l'engouement des hommes. Et puis ça permet de quitter le Tour de France des hommes un peu moins tristes. Moi, je sais que sur toutes les dernières années...
Plus coup de bouse.
Oui, voilà. C'est là, on voit les Champs-Élysées, on est très content de cette étape. Et puis après, on a envie de pleurer parce que c'est fini. Et là, heureusement, il y a le Tour des femmes qui poursuit un peu l'euphorie. Donc je pense que c'est excellent.
Et puis le fait que Pauline l'ait gagné, ça a sûrement apporté une autre dimension.
Je pense que ça a fait rêver énormément de monde. Ça a rendu fière toute la France. Donc oui, je pense que la victoire de Pauline cette année a fait quelque chose de plus spécial encore pour le Tour. Et je pense qu'on va pouvoir profiter de cette énergie pour les prochaines éditions.
Alors vous, hein, il faut gagner votre place. Il faut y aller au Tour. On veut vous voir début août en Suisse.
J'espère aussi. Et, ouais. Et voilà, on va essayer de tout préparer pour que ce soit le cas.
Merci Marion.
Merci à vous.
Voilà, c'est vrai qu'on aura un bel été. Il y aura le Tour de France en même temps que la Coupe du Monde. Il y aura une petite semaine de battement et ensuite, ça sera le Tour féminin. C'est vraiment, Tristan, là maintenant, la quatrième semaine cycliste, le Tour de France féminin. Hein. Depuis Pauline Ferrand-Prévot, ça a vraiment gagné ses lettres de noblesse.
Ça a gagné
du public, hein, je parle.
Ouais, ça a gagné ses lettres de noblesse parce que il y a plus de densité dans le cyclisme féminin, dans le peloton féminin, il y a des championnes de tous les pays, des équipes qui se structurent, et donc le fait que le Tour de France ASO ait relancé et les placé
juste après,
c'est parfait. Et là, on va avoir un Tour de France féminin avec l'arrivée au Ventoux et la dernière étape à Nice avec 4 fois le Col d'Aise.
Oui.
Ça va être un suspense jusqu'au bout. Je pense qu'on va. On va être à fond.
Allez, pour l'instant, ils ont bien mérité d'aller au soleil. Donc, les champions et championnes cyclistes, on marque une pause musicale. Vous aimez le foot ?
J'adore le foot.
Eh bien, on va passer ensuite au ballon rond, donc, dans la deuxième partie de cette émission. Allez, la musique avant.
Clinton made that shit. On veut pas t'expliquer qu'on a grandi dans le fond. On veut les cartes chic. Des frères sont partis. On regarde le ciel. On parle plus de la MZ. C'est l'histoire ancienne. On voit le jet. 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 On voit le jet.
On voit le zéro.
On voit le jet.
On voit les dons.
On voit le jet.
On voit le wali.
On voit le jet.
Je dis qu'on voit les livres.
On voit le jet. On voit le jet.
On voit les livres.
On voit le jet. On voit le jet. Ramène de la peur. Qu'on aille dans ses teufs. S'il y a de la meuf, on attaque, on est des neufs.
Ramène son
jet. Où tu vas prendre cher. Il va faire la guerre. Balle dans la tête, ça fiche. Salément, on est pas. Alcool et drogue. Compte plus les bitches, on fait plus de rap. Les gros, c'est du rap. Des frères sont partis. On regarde le ciel. Parle plus de la MZ. C'est l'histoire ancienne. On voit le jet. 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 On voit le jet.
On voit le zéro.
On voit le jet.
On voit les dons.
On voit le jet.
On voit le wali.
On voit le jet.
Je dis qu'on voit les livres.
On voit le jet. On voit le jet.
On voit les livres.
On voit le jet. On voit le jet.
On voit les euros. On voit les dollars. On voit les livres. On voit le wali. On voit les roubles. On voit les pesos. On voit les yens. On voit les. J'ai dit on voit le jet.
Alors naturellement, bah, cette émission vous gâte, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes. Vous pourrez la réécouter donc en podcast, hein, 140e émission ce soir. Marius, donc c'est toi qui vas faire la pachoute, hein, ce soir. Comme et on fois. Va, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le national, parce que tu sais qu'il y a eu un derby important. C'était donc la semaine dernière entre Fleury, Mérogis et Versailles. Alors il y a eu déjà deux précédents derbys. C'était le Paris 13 Atlético qui cet été avait battu Fleury, Mérogis 1-0. Et puis Versailles qui avait battu le Paris 13 Atlético 2-1. Bon, là, c'était un match nul, 0-0. C'est vrai que c'était un bon 0-0.
C'est dommage.
Oui, c'est dommage. Même si Fleury méritait peut-être un petit peu plus la victoire, vu son nombre d'occasions. On va écouter d'abord l'arrière donc gauche de cette équipe de Fleury, Thibaut Plisson, qui lui semblait satisfait donc de ce nul face à l'équipe de Versailles.
Bon, je suis avec Thibaut Plisson. Thibaut, ce 0-0, vous en pensez quoi?
Oui, bonjour. Bah écoutez, franchement c'était un très bon match. En essayant d'être objectif, je pense qu'on fait un très très bon match. On a de très belles situations qu'on n'a pas su concrétiser au bon moment. Après, on a été très très solide défensivement. On a concédé très très peu d'occasions. Il faut retenir le positif parce que c'est un très bon match. Je suis pas loin de dire que c'est un match référence pour nous. Donc on va s'appuyer sur ces matchs-là pour continuer à avancer.
Oui, puis vous finissez beaucoup plus fort que Versailles. Il n'y a pas des regrets de ne pas avoir concrétisé cette domination sur la fin?
Ouais, bien sûr, c'est ça. Mais c'est positif parce qu'on a quelques regrets contre une très belle équipe de Versailles. Mais en effet, on a quelques regrets parce que je pense qu'on mérite mieux. Si on est un poil plus juste techniquement, je pense qu'on peut, gagner ce match 1-0 sur la fin de match.
Bon, comment ça se passe ce début de saison pour le National? L'équipe est quand même satisfaite de son début de saison?
Bien sûr, on est satisfait, bien sûr. Mais on reste ambitieux quoi qu'il arrive. Donc on essaye de faire mieux toujours. On s'améliore au quotidien, on travaille pour, donc on va tout faire pour aller chercher la meilleure place possible.
Oui, et puis ce soir, le public, vous avez réussi à drainer tout un tas derrière vous, de public.
Ouais, c'est vrai, grâce à nos. Je pense que c'est grâce aussi à nos prestations sur le terrain. On fait des beaux matchs, même si à domicile pour l'instant ça ne paye pas au niveau des points. Je pense que ça va payer plus tard dans la saison et on les remercie infiniment parce que vraiment leur soutien, on l'entend. Et ça nous fait vraiment du bien sur une fin de match, comme vous avez dit sur ça. Ça nous pousse à aller plus loin, donc c'est top. Franchement, qui continue à être là, présent et encore plus nombreux s'ils peuvent.
Bon, le national, hein, c'est quand même déjà le troisième niveau. Quel est votre regard, vous, depuis quelques temps?
Bah écoutez, c'est un championnat.
C'est un rêve d'enfant.
Ouais, un rêve d'enfant, on peut dire ça comme ça. On rêve toujours d'aller au plus haut, donc c'est ça. Mais après, on sait que le championnat national est un championnat super, super compliqué. On sait que même des joueurs qui arrivent à jouer en Ligue des Champions nous disent que c'est le championnat le plus compliqué qu'ils aient joué. Donc c'est pas nous qui allons dire le contraire. Hein.
Ouais,
Voilà.
Et le public, vous en trouvez du public un peu partout sur vos déplacements, parce que vous jouez quand même contre des clubs prestigieux, Sochaux, Caen entre autres.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il y a des sacrés stades. Le National commence à être un championnat vraiment développé. Je pense qu'il faut qu'il devienne professionnel, justement, parce que c'est un vrai débat sur ça. Et comme vous avez dit, on joue dans des stades parfaits, devant des dizaines de milliers de supporters dans certains cas. Et je pense qu'on mérite ce statut et c'est vrai que c'est un très très beau championnat.
Bon Thibaut, pour le match de la semaine prochaine, on se prépare comment comme ça? Un petit peu de repos demain?
Non. Non, pas de repos, on enchaîne direct,
ah
on
ouais.
va vite, ouais. On va vite passer à autre chose.
Le décrachage quoi,
oui, je ouais. pense, on n'a pas exactement la séance, mais demain on est au club. On enchaîne mardi, on va avoir, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a 5 matchs en 19 jours.
Ah ouais.
Donc c'est énorme avec la Coupe de France qui rentre en jeu. Donc bien gérer, bien se reposer et continuer à travailler surtout.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Voilà, effectivement, ils ont rejoué depuis, c'était mardi, ils sont allés faire match nul 2-2 à Bourg-en-Brest, alors que Versailles, Versailles a été battu à domicile ouais, par Dijon 2-0, et que le Paris 13 Atlético, enfin, après son changement d'entraîneur, a réagi ouais, et a battu Saint-Brieuc 3-0, il était temps. Allez, on va continuer avec les interviews de ce derby, on va écouter tout simplement Pascal Bovis, c'est le président de cette équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi, et puis il compte pas. Ça restait là. Bon, Pascal Bovis, 0-0, vous en pensez quoi?
Je pense que c'est un bon résultat pour nous. Hein. Versailles, c'est quand même un des leaders du National qui joue la montée en Ligue 2. Donc, je trouve que c'est un bon résultat. Et sur la physionomie du match, je trouve que même à la limite, on aurait pu espérer un petit peu plus. Donc.
Oui, justement, sur la fin, ça laisse un peu de regret quand même. Il y a eu des occasions.
Il y a des belles occasions, il nous a manqué un peu de justesse, la petite balle qui rebondit pas où il faut, mais dans l'ensemble on peut être satisfait parce qu'on a quand même sur le fond on a produit du jeu, il ne se crée pas d'occasion réelle, donc maintenant il faut continuer et puis essayer de convertir, positiver encore et convertir ce bon résultat nul mardi prochain en allant faire quelque chose à Bourg, hein, je crois que c'est...
Comment vous vivez cette première saison en National, vous qui l'avez attendu pendant des années et des années?
Alors, c'est vrai qu'on l'a attendu, mais d'un autre côté, ça nous a permis de nous structurer au niveau du club. Et là encore, on sent qu'il faut encore faire des efforts de structuration, mais on avait déjà fait un bon premier pas. Et c'est beaucoup de plaisir, parce que le jeu est un peu différent. On aime beaucoup, tous. Donc, on va essayer de prolonger l'aventure un maximum.
Et puis, ça s'organise autour du club, les supporters. Vous réussissez à drainer toute une région derrière vous?
Alors, on sait que la région parisienne, au niveau des supporters, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Mais on essaye justement de... ça, c'est un de nos objectifs. Coquer un peu plus Bobin, le rendre un peu plus cocon. Et puis, essayer d'avoir une expérience fan zone pour que les spectateurs aient du plaisir à venir. Le spectacle est sur le terrain. Il faut aussi qu'il soit dans les tribunes. Et ça va être notre prochaine mission.
Et puis le football francilien, quand même, trois clubs en National, le Restart en Ligue 2, deux clubs parisiens en Ligue 1, quelle pépinière!
Oui, alors ça c'est la force de l'Île-de-France, d'avoir vraiment des jeunes talents dans tous les clubs pratiquement. Et puis c'est très bien que l'Île-de-France soit représentée au plus haut niveau. Très très bien par le Paris Saint-Germain, très très bien aussi par le PFC qui fait un vrai travail depuis de longue date. Ce sont des PFC sont des amis et des confrères. Voilà, donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Nous on est en Ligue 3 pour le moment. On peut être très heureux aussi en Ligue 3. Il faut savoir, c'est qu'on n'ira jamais en Ligue 1, mais il faut continuer à se battre. Peut-être un jour en Ligue 2, pourquoi pas. Mais pour le moment, il faut continuer à se structurer. En tout cas, c'est vrai que le foot francilien. Ça fait plaisir de le voir à si haut niveau et puis dans une bonne ambiance. Aujourd'hui, c'était un derby, mais c'était un derby en toute amitié. Le vainqueur, c'était le jeu et la bonne ambiance et le fair play. Et ça, c'est ce qu'on souhaiterait voir partout.
Et puis pour finir, vous avez aussi vos féminines, hein, parce que l'équipe de National, elle draine tout un club.
Ah oui, je suis d'accord. Les filles, c'était la locomotive du club. Enfin, on avait deux locomotives. Elles sont aujourd'hui... on a deux grosses locomotives. Et puis les filles, cette année, j'espère qu'elles vont faire... elles sont bien parties pour faire quelque chose peut-être très bien, voire peut-être même très surprenant. On espère.
La Coupe de France ? La Coupe de France ?
La Coupe de France, bah c'est une super aventure, la Coupe de France, et pour les garçons et pour les filles. Donc ça, il faut jamais brader ce genre de compétition. On a réussi à gagner contre une R2 il y a une semaine. Et comme j'ai dit aux joueurs, il n'y a pas de petites victoires. Les gars, toutes les victoires sont importantes et ça a fait plaisir. Là aussi, c'était une belle fête. Et puis dimanche prochain, on va aller à Argenteuil. Ça sera aussi un match à prendre au sérieux. Et puis j'espère qu'on passera quelques tours encore. Et puis peut-être, pourquoi pas, jouer le PSG ou le PSC en 32e si on a le bonheur d'arriver à ce stade.
Merci, hein, Pascal. Voilà, merci à Pascal Boix. Et oui, pourquoi pas un jour en Ligue 2. Et puis bah pourquoi pas un beau parcours de Fleury cette année en Coupe de France. Hein.
Et en plus, ils ont gagné.
Oui, en plus, ils ont gagné.
Argenteuil, donc 6-1.
Voilà, ils ont gagné 6-1. Et le Paris 13 Athletic aussi a gagné 3-2. Donc, ces deux clubs franciliens qui jouent en national continuent l'aventure pour l'instant en Coupe de France, alors que Versailles s'était fait éliminer déjà au tour précédent. Allez, on va écouter maintenant David Vigne, l'entraîneur de cette équipe de Fleury. Et on lui a demandé s'il estimait que c'était un bon 0-0.
Oui, je pense que c'est un 0-0 qui a été rythmé avec pas mal d'intensité. Je pense que c'était un bon match de la part des deux équipes. On aurait aimé évidemment prendre les 3 points. Je pense que ça n'aurait pas été usurpé de les prendre parce que j'ai presque envie de dire tout tenté jusqu'au bout. Les joueurs ont été très courageux de continuer à aller les chercher en haut malgré le match qui a avancé et la possibilité de se faire contrer, mais malheureusement il a manqué juste un but pour que la soirée soit parfaite, mais c'était un bon match effectivement.
Parce que vous finissez beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux le match. Hein. Vous finissez beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai que les rentrants, Rivas et Béliard, ont amené vraiment un plus et ça aurait été bien qu'ils soient décisifs, l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, pour l'emporter en termes de dynamique de groupe. Ça aurait été très intéressant. Mais je suis content de l'investissement des joueurs, de l'implication. On n'a pas grand-chose vraiment à se reprocher sur le match. Donc, n'oublions pas que c'était Versailles en face, qui fait un début de saison tonitruant. C'est le leader, hein, puisqu'ils ont déjà été exempts et Rouen non. Ça reste un bon point.
Vous êtes content de vos débuts de saison finalement ? Vous êtes dans vos objectifs ?
Oui, parce que quand on est promu, le club découvrait le niveau. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs qui connaissaient le niveau. Moi-même, j'ai déjà entraîné à ce niveau-là, donc il n'y avait pas trop de surprises pour nous. Mais malgré tout, on ne savait pas comment on allait répondre à tout ça. Et même si je pense qu'il nous manque 2 points, la réalité, ça serait qu'on soit à 14 ce soir avec ce match nul. On est à 12, ça reste très cohérent, on est au milieu de classement et si on y est, c'est que c'est notre place pour l'instant. On aurait pu faire un peu mieux, mais à nous de faire mieux jusqu'à la trêve pour gagner un peu plus de points qu'on l'a fait sur le premier quart. Mais autrement, je suis satisfait de ce que l'on propose, notamment en termes de jeu où les joueurs font preuve quand même de personnalité, mis à part le match ici contre Caen où j'ai trouvé qu'on avait joué qu'une moitié de match. Sinon, tous les autres matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on fait preuve de personnalité. Et donc, c'est satisfaisant. Après, évidemment qu'il faut des points.
Et au fil des matchs, vous sentez un public qui vous pousse, qui est derrière vous, toute une région qui commence à venir vous encourager tous les 15 jours.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit engouement, notamment, on va dire que le moteur, c'est la création de ce groupe d'ultra, si je puis les appeler ainsi, je crois que c'est ça. Et ça fait plaisir parce qu'on les entend et on voit que Versailles, ils ne sont pas plus nombreux, mais ils viennent aussi. On les avait avec nous à QRM il y a 15 jours, ils étaient même avec nous en Coupe de France. Donc pour les joueurs, ça fait toujours plaisir et d'entendre dans ce stade qui est quand même pas simple hein, pour mettre de l'ambiance, donc c'est pas simple pour nous d'y jouer, mais c'est pas simple pour eux aussi de faire du bruit, mais ils y arrivent. Donc puis on sent qu'il y a un peu plus de monde, donc la prochaine réception c'est Sochaux, un grand club, je pense et j'espère qu'il y aura un petit peu de monde et que nous on gagnera enfin un premier match à Beaubain.
Et puis 3 clubs franciliens quand même en national.
Oui, c'est vrai, et qui figure pas trop mal. Donc, en plus.
Des beaux derbys.
Oui, ça y est, on en a déjà joué 2. Hein. Maintenant, en attendant les matchs retour, on n'a pris qu'un point sur les 2. à charge pour nous de faire mieux. Mais bon, le football francilien se porte plutôt bien, hein, avec le Restart qui est devant en Ligue 2, le Paris FC qui fait plus que lutter en fait en Ligue 1. Donc bon, PSG évidemment. Donc oui, c'est bien pour la région.
Voilà, merci à donc David Vigne. Et alors, on va rappeler quand même que c'est Rouen qui est en tête avec 24 points. Devant Dijon, Versailles et Orléans, 20 points. Hein, Fleury est 9e, donc en milieu de tableau, un petit peu comme le Paris FC avec 13 points. Et ensuite, eh bien, il y a le Paris Atlético qui va un peu mieux, qui est dans un groupe avec Châteauroux, Valenciennes, avec 12 points. Alors que le 16e, c'est Bourg-en-Bresse, 7 points. Et le 17e, Saint-Brieuc, 5 points. Ils se sont pris un petit peu d'oxygène quand même.
Franchement, ça fait du bien pour le Paris FC.
Allez, on va finir cette série d'interviews. On vous a gâté aujourd'hui entre le vélo et puis le foot. Hein, avec il a joué à Rennes, il a joué à Saint-Étienne, il a joué à Lyon, il a joué à Monaco. Il était un observateur neutre de ce match. C'est Frédéric Piquionne, toujours aussi intéressé par les choses du foot.
Allez, Frédéric Piquionne, qu'avez-vous pensé de ce match, de ce derby 0-0?
J'avais l'impression que c'est justement, ils sont un peu trop regardés. J'avais pas l'impression de voir un derby ce soir, parce qu'on sait que normalement dans un derby, il y a quand même pas mal d'intensité, pas mal de caractère. Et j'ai trouvé Fleury un peu timide, malgré le résultat. Bon, c'est quand même un bon 0-0, ça vient de monter. Mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus.
Surtout sur la fin de match. Hein.
Surtout sur la fin de match avec les rentrants qui ont donné un petit peu plus de peps. Mais après, ça a manqué de lucidité et puis aussi il y a eu pas mal de déchets dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, voire même devant le but. Donc voilà, c'est ce qui a manqué un petit peu à cette équipe de Fleury pour gagner ce match-là. Mais il y a quand même pas mal de points positifs. Après, j'ai trouvé l'équipe un peu large. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Mais il y a une bonne base de travail. C'est quand même une équipe qui est dans l'apprentissage et qui a besoin de continuer de grandir.
Vous venez souvent sur ces matchs de National?
J'aime bien regarder, ouais, effectivement, j'aime bien regarder les matchs, j'aime bien venir à Fleury, je regarde l'Atlético. Oui. En fait, je trouve que dans la région parisienne, on a quand même pas mal d'équipes qui sont en construction et qui ont besoin de grandir. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde amateur. Moi, on vient du monde amateur, donc c'est plutôt intéressant et je trouve que les clubs travaillent de mieux en mieux et très très bien.
Parce que c'est vrai que c'est un niveau quand même entre l'amateurisme et le professionnalisme. C'est pas évident de trouver sa place.
Non, c'est pas évident, malgré le fait que la Fédé aujourd'hui va professionnaliser normalement le national. Donc déjà, ça donnera un petit coup de boost, un petit peu de visu aussi, parce que finalement, c'est pas trop vu. Hein. C'est quand même la 3e division française et on n'a pas de. À part la Fédé et YouTube, on peut pas voir les matchs. Donc. Ça va donner peut-être un petit peu d'élan et puis surtout voir après pour les infrastructures, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'équipes qui se structurent, qui montent, mais après derrière ça manque de terrain, ça manque de pas mal de choses, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Mais bon.
Et vous, reprendre du service au sein d'une équipe comme entraîneur, comme coach, pourquoi pas un jour?
Ouais, pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, moi je suis comme les clubs, hein. Je suis dans l'apprentissage, je regarde justement ce qui se fait, j'aime bien voir les coachs aussi, parler avec eux. Un rôle d'adjoint dans un club, ça me ferait bien plaisir, puisque aujourd'hui j'ai mes diplômes pour faire au moins les spécifiques attaquants, c'est ce qui me plairait, ancien attaquant, donc ça a vraiment un rôle qui me plairait énormément, donner des conseils, la transmission, et voilà, donc on attend, on regarde, on prospecte, et puis on verra ce que l'avenir nous dira.
Et puis vous faites de la radio en attendant?
Oui, c'est vrai que je suis consultant à l'équipe en ce moment. Et ça me plaît énormément aussi ce rôle de consultant, ça me permet de rester dans le football et de rencontrer des gens formidables, donc c'est cool.
Merci Frédéric.
Avec plaisir.
Merci à lui en tout cas. Donc, et puis on espère le revoir très prochainement, donc soit donc au Stade Pelé pour les matchs du Paris 13 Atlético, surtout qu'il y a Vicage Dorasso qui est entraîneur adjoint, soit donc à Fleury-Mérogis. Allez, on va maintenant commenter le restant de l'actu foot, naturellement marqué cette semaine par les Coupes d'Europe.
Bien sûr.
Un bilan très mitigé quand même,
ouais, hein, mitigé pour les clubs français, ouais. Mais en Ligue des Champions en tout cas, on a eu un record de buts, 71 buts, soit une moyenne de 3,14 buts par match.
Ah, il n'y a pas qu'en championnat qu'on marque alors.
Et c'est énorme, ouais. Franchement, ouais, on n'a jamais vu ça. Et ça a plutôt bien commencé avec le PSG qui est allé au Bayer Leverkusen, victoire 7-2.
C'était une véritable démonstration, il n'y a pas eu de match.
Il n'y a pas eu de match.
Rien à dire.
Le seul point néfaste, c'est le carton rouge du côté de Paris. Il y en a eu aussi un du côté de Leverkusen. Mais Paris est leader de cette phase de ligue avec 3 victoires en 3 matchs.
Vraiment son statut de champion d'Europe et équipe à battre encore cette saison. Hein.
Bien sûr. Ouais. Et ensuite, on a eu un Monaco-Tottenham, match nul 0-0.
J'allais dire comme d'hab pour Monaco.
Mais pourtant, Tottenham tenu en échec, parce que ça a été très séduisant du côté de Monaco, qui a eu pourtant eu les occasions pour prendre l'avantage, sans compter sur un immense Vicario, le gardien de Tottenham. Mmh. Ensuite, on a eu un Sporting Portugal-Marseille, défaite de Marseille 2-1.
Qui peut les faire des regrets et des regrets aux Marseillais?
Et parce qu'ils ont très bien débuté, première mi-temps maîtrisée, mais ça a été plombé par le carton rouge de Emerson, le défenseur. Et après, l'équipe s'est effondrée. Un deuxième visage en deuxième mi-temps, avec un Pavard en demi-teinte aussi, qui a été... Bon, c'est pas un CSC, mais la frappe est quand même bien détournée. Mmh. Et ensuite, pour les prochaines rencontres de nos clubs français, on a le fameux PSG-Bayern qu'on attend tous. C'est le premier contre le deuxième.
Deux équipes en pleine bourre actuellement.
Et peut-être les deux favoris de cette Ligue des Champions. Mmh. Ensuite, on a un Bodø/Glimt-Monaco.
Oui.
Et un Marseille-Atalanta-Bergame, qui va rappeler la saison dernière pour Marseille.
Oui, alors on va rappeler que Marseille est 18e hein, à égalité avec l'Atlético et puis Bruges, et ainsi que 4 autres équipes avec 3 points, et que Monaco est 27e avec 3 autres équipes avec 2 points. Ouais.
Et voilà. Après, on a eu l'Europa League jeudi. Victoire de Lyon à Bâle 2-0.
Ouais, heureusement. Hein.
Ouais. Et c'est une victoire logique et méritée pour l'OL.
Ils sont l'honneur du foot français. Là.
Ouais. Ouais. Franchement, oui. C'est auteur d'un grand match. Ils sont 3e de la phase de ligue avec 0 défaite.
Et 9 points donc. Ouais. Ensuite, Nice battu par le 7 à Vigo 2-1.
J'ai envie de dire que c'est une habitude. 0 match gagné sur 14 en Coupe d'Europe pour Nice.
Donc 33e.
Donc 0 avec 0 points.
Ouais. Déception pour Lille, battu 4-3 à domicile par Salonique, le PAOK Salonique.
Et défaite cruelle pour les Lillois parce qu'il y a eu des décisions arbitrales assez douteuses, si je puis dire, quand même. Ils ont essayé de revenir au score, ils ont failli d'ailleurs, mais malheureusement, les Lillois n'ont pas réussi à revenir.
Ouais, donc ils sont 11e avec 6 points. Et puis, peut-être aussi petite performance pour Strasbourg, contre-performance, tenue à domicile en échec 1-1 par les Polonais de Białystok.
Oui, et pourtant, il y a eu un superbe but de Panicelli, il a mis une retournée acrobatique, mais Strasbourg, pour moi, pouvait gagner ce match largement. Ils ont même touché 2 fois les poteaux. Donc, pour moi, c'est plutôt une contre-performance pour Strasbourg.
Oui, c'est ça. Ah, donc, ils sont 9e avec 4 points. Mm. Donc, on a connu mieux au niveau des semaines européennes, cette fameuse deuxième journée où on était premier à l'indice UEFA.
Là, ça a été plus compliqué. Ouais.
Alors, 9e journée du championnat, on rappelle très brièvement les résultats.
Et notre fameuse Ligue 1, on a eu Paris FC Nantes, défaite du Paris FC une fois de plus
à Jean Bouin.
2-1. Ensuite, on a eu un Brest-PSG, victoire 3-0 du PSG à Brest. Enfin, une victoire pour Paris
avec un
énorme Achraf Hakimi. Mmh. Ensuite, on a eu un Monaco-Toulouse, victoire 1-0 de Monaco, malgré un Toulouse séduisant. C'est la première victoire de Pocognoli sous l'ère à Monaco. Ensuite, on a eu un Lens-Marseille. Victoire de Lens 2-1, semaine noire pour l'OM, et cette fois plombée par Pavard, auteur d'un pénalty et d'un but contre son camp. Du coup, Marseille perd sa place de leader et sa place de dauphin, justement, Lens qui la prend. Mmh. Ensuite, on a eu un Lille-Metz, victoire 6-1 de Lille. Une fois plus, Metz perd lourdement et ça semble déjà acté quand même, je pense, pour la Ligue 2. Mmh. Ensuite, on a eu un Rennes-Nice.
Nice qui s'est réveillé, qui a gagné à Rennes 2-1, mais ça met Abibay en sursis.
Très danger. D'ailleurs, il faut des résultats face à Toulouse mercredi, sinon je pense que ça va être la porte. Mmh. Ensuite, on a eu un Angers-Lorient, victoire 2-0 de Angers. Oui. Angers qui renoue avec la victoire. Ils sortent donc ainsi de la zone rouge.
Ce sont des victoires importantes. Hein. Mmh. Tout comme le Havre qui va gagner à Auxerre 1-0, c'est une victoire hyper importante.
Oui, parce que les points ils sont très importants. Par contre, Auxerre, ça coince un peu. Ils sont avant-dernier.
Oui.
Ensuite, on a eu le match du dimanche soir avec un Lyon-Strasbourg et Lyon qui a eu peur, victoire de Lyon, 2-1. Ouais. Mais Lyon qui a eu peur parce qu'ils ont été menés 1-0, encore une fois, par un but de Panicelli. Ils ont su arracher la victoire à la 93e minute grâce à un but de Morera. Seul point noir de la soirée pour Lyon, c'est la sortie sur blessure de Fofana après un tacle assassin de Doucouré.
Oui, alors comme tu l'as dit, les positions changent en tête du championnat. Paris Saint-Germain reprend la tête avec 20 points. Deuxième, Lens, 19 points. 3e Marseille et Lyon 18 points, 5e Lille, Monaco 17 points et 7e Strasbourg 16 points. Donc on voit quand même que ça reste encore serré. 4
c'est
points
serré, ouais.
séparent donc les 7 premières équipes. Et en bas de tableau, 16e Lorient 8 points, 17e Auxerre 7 points et 18e Metz 2 points. Le Paris FC, bah, il est dans le ventre mou, il est 11e avec 10 points hein, et il y a seulement 4 points donc, entre Auxerre qui est avant-dernier du championnat et Rennes qui est 10e. Ouais. Donc ça montre que c'est un championnat
c'est
encore
très serré,
très serré et très compact. Allez, les résultats pour la Ligue 2.
Et bah, Ligue 2, on a commencé par un Reims 3, match nul 0-0. Oui. Ensuite, on a eu la défaite de Pau à domicile 3-0 contre Dunkerque.
Oui.
En revanche, le Red Star qui gagne 1-0 contre Grenoble et gros coup du Red Star qui profite justement de la défaite de Pau et on viendra plus tard de Saint-Etienne pour filer en deuxième place de Ligue 2.
Bien. Mmh.
Ensuite, on a eu Guingamp-Clermont, victoire de Clermont 1-Guingamp 1-0. Mmh. Le Mans, Boulogne-sur-Mer, victoire de Le Mans 1-0. Chez eux, 1-0. Mmh. Ensuite, on a eu un Bastia-Laval qui a été reporté à cause de la tempête.
Les deux dernières équipes joueront un peu plus tard.
Ensuite, Montpellier-Nancy, victoire Montpellier 4-1.
Oui.
Ensuite, un Amiens-Rodez, victoire 2-1 de Amiens. Et
Annecy qui a écrasé Saint-Etienne.
Qui écrase Saint-Etienne 4-0. Attention à Saint-Etienne, ça fait deux défaites d'affilée.
Oui.
Faut pas filer ces points-là parce que c'est très important. On sait que Saint-Etienne vise la montée en Ligue 1. Ouais. Donc attention quand même à Saint-Etienne.
Et le classement, donc c'est 3 en tête avec 24 points devant le Red Star, effectivement, deuxième maintenant avec 23 points, troisième Pau 21 points, donc là aussi ça reste très serré. Et donc Saint-Etienne quatrième 20 points, et puis en bas de tableau, on l'a dit, donc les deux dernières équipes de cette Ligue 2, donc qui joueront un peu plus tard ce match remporté, donc Laval 17e avec 8 points et Bastia 18e avec 4 points. On finit tout simplement avec les filles, avec la Ligue des Nations.
Et oui, parce qu'on a eu...
L'Allemagne a battu la France 1-0, et puis l'Espagne a écrasé la Suède 4-0.
Et attention à la France, hein, parce que bon, il y a deux matchs, mais attention tout de même, il va falloir les gagner en France pour essayer de voir cette finale de Ligue des Nations.
Donc les matchs retour, c'est demain mardi.
Demain.
À 21h, décidément, l'Allemagne, ça ne nourrissait pas hein, chez les féminines. Hein, ils avaient déjà éliminé de triste manière donc, en quart de finale de
l'Euro.
Coupe du Monde.
C'était l'Euro.
Donc l'été dernier. Merci Marius.
Et de rien.
Tristan, juste un petit mot. Le foot, ça vous plaît, là, sur ce qu'on vient d'entendre, vous tirez un commentaire?
Moi, je suis le foot, alors pas en spécialiste jusqu'à la nationale, mais ce que je remarque, c'est... c'est peut-être pas le bon endroit, mais je suis content en tout cas du retour de l'OM qui joue bien.
C'est bien, il y en a un championnat serré, c'est
passionnant. Voilà, et c'est une Ligue 1, Ligue 1 resserrée, donc il y a des beaux matchs, ça joue bien, donc voilà, ça c'est ce qui me plaît.
Voilà, alors on parle de vélo, on parle de foot et on parle aussi de tous les sports sur Mon Paris FM. Alors, Vanessa, elle a tout vu ce week-end. Donc, on va enchaîner maintenant sur les autres actus omnisports hors vélo et hors foot, bien qu'on parlera un petit peu quand même du cyclisme sur piste dans les résultats.
Tout à fait, Philippe. Et on ouvre ce journal des sports avec les sports mécaniques et le Grand Prix du Mexique qui s'est achevé cette nuit avec donc la victoire de Lando Norris devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Olivier Biermann est quatrième devant Oscar Piastri. Les Français Ocon, Hadjar et Gasly sont respectivement 9e, 13e et 15e. Au classement général, Norris, avec cette victoire, prend la tête pour seulement un petit point Piastri et Verstappen.
Ça nous promet une belle fin de saison de Formule 1 aussi. Fabuleux. Hein. Mmh. Ouais. Par contre, il n'y a plus de suspense en moto.
Non, plus de suspense en moto. En plus, un podium 100% espagnol, hein, avec donc la victoire d'Alex Marquez, le petit frère, en un peu plus de 40 minutes 2 secondes, devant Pedro Acosta, son compatriote, et son autre compatriote, Juan Mir. Les Français, Fabio Quartararo est cinquième devant, et Juan Zarco, lui, est 12e. Mmh. Donc, on note quand même l'abandon de l'Italien Francesco Bagnaia, qui a dû faire un abandon
C'était un des bons coureurs de la saison dernière, mais cette année il est un peu en retrait, c'est une affaire espagnole cette année
Au classement général, donc Max Marquez, l'aîné des Marquez, prend la tête avec 545 points devant Alex, son petit frère, 3e Bezzecchi et 4e Bagnaia. Et on finit ce top 5 avec Pedro Acosta, l'Espagnol. Les Français Fabio Quartararo et Juan Zarco sont respectivement 9e et 11e. À noter tout de même en Moto 3 un accident survenu pour Noah Detweiler suite à une collision avec le champion du monde José Antonio Rueda. Il est toujours dans un état critique, mais ça va un peu mieux. Maintenant, on part en mer, Philippe. Et oui. Hier s'ouvrait la Transat Laure, hein, la fameuse Transat Laure ex-Jacques Vabre.
La course du café.
Exactement. Et donc, une course qui partira du Havre pour rallier la Martinique. Donc, tous les navires sont partis hier, tout d'abord la catégorie ultime à 14h10, suivi par Imoca à 14h30, puis les classes 40, donc à 14h50. Il y a eu une météo capricieuse qui a fait que les Ocean 50 sont partis samedi. À noter que il y a eu une avarie pour le duo Armel Leclerc et Sébastien Auro qui ont repris la route en début d'après-midi. Problème technique également pour la paire Johan Richomé-Corentin-Auro, qui lui a connu aussi des problèmes techniques, lui, 2 heures avant le départ au Havre. Et pour Armel Leclerc, lui, c'était un problème, une avarie au safran. On passe maintenant au sport d'hiver, Philippe.
Ah oui,
voilà.
c'est parti.
Hop, premier géant de la saison qui a eu lieu à Solden en Autriche. Le Suisse Marco Odermatt s'est imposé sans trembler. Il signe sa 45e victoire en Coupe du Monde.
On prend les mêmes heures, comment ça ?
Et il prend la tête, voilà. Et puis chez les femmes, Julia Scheib a remporté sa première victoire en carrière à l'international. L'Autrichienne s'est imposée devant l'Américaine Paula Molzan et la Suissesse Laura Gut-Bérami. On continue avec les sports d'hiver. Philippe, en patinage artistique, ce week-end avait lieu le Grand Prix de Chine avec une nouvelle médaille française en danse sur glace avec Ebrina Lepareva et Geoffrey Brissot. Ils sont troisièmes. C'est les triples champions du monde américains Madison Chock et Evan Bates qui ont remporté la compétition devant leurs compatriotes. C'était quand même un duel à distance par rapport à la semaine dernière, hein, puisque à Angers, c'était donc Guillaume Cizeron et Laurent Fournier-Baudry qui avaient remporté ce Grand Prix de France. Et ils seront les principaux adversaires donc de nos Français aux Jeux Olympiques. Et à noter également la 6e place de l'autre paire de Mougeot-Lemercier en danse sur glace. Autre bataille à distance, pas de Français engagés cette fois-ci, mais la victoire du Japonais Shun Sato, qui est un petit peu le second couteau chez les Japonais. Et Dieu sait qu'ils sont très forts, devant l'Italien Daniel Grassel et le Kazakh Mirail Chaïdorov. Eux aussi seront à surveiller sur les Europes, même si ce n'est pas les adversaires les plus directs. Et enfin, le retour des champions olympiques en couple Sui Han et Wen Jing Sui, qui ont terminé 3e. Et puis, bataille de triple axel entre Amber Glenn l'américaine et Rinka Watanabe. Et c'est Amber Glenn qui s'est imposée. On passe à la gym.
Oui,
allez hop.
Oui.
Victoire au bar asymétrique pour la championne olympique Kalia Nemour, qui a remporté donc l'argent à la poutre et le titre au bar asymétrique. Donc, et c'est une belle victoire pour la poutre puisque quelques jours avant, elle avait échoué donc au qualif et au concours général.
Mais zéro pointé pour la gym française qui doit bien la regretter.
Zéro pointé pour la gym française et des mondiaux perturbés par une polémique avec l'écartement des Israéliens par l'Indonésie. Donc. Et donc le CIO, pour info, a coupé les ponts avec l'Indonésie. Et maintenant, on passe au cyclisme sur piste, Philippe.
Ouais.
Avec,
c'est pas très brillant non plus.
Bon,
hein.
Non. Ouais. En effet, on part à Santiago, Chili, avec 3 médailles françaises au final. Donc, la paire Marion Borras et Victoire Berthaud ont apporté à la France sa 5e médaille d'argent, sur les 6 dernières éditions. Mm-hmm. Et puis, Clément Petit, lui, a décroché le bronze dans la course au point vendredi. De son côté, Marion Borras a décroché l'argent sur l'Omnium. Donc, c'est un bilan demi-teinte pour la France.
De l'argent de bronze.
Voilà.
On a connu beaucoup mieux. Hein.
C'est ça. Il faut se dire que c'est une génération en renouveau. Et par contre, carton plein pour les Pays-Bas avec 13 médailles, dont 9 titres, et l'Angleterre avec 4 titres. On passe au sport de combat. Mmh. Vous y étiez samedi, Philippe.
Et on en parlera d'ailleurs samedi prochain.
On en parlera.
Lundi prochain.
On va commencer par la MMA d'abord. Petit pétard mouillé tout de même, parce qu'on attendait avec impatience le combat entre le français Cyril Gane et Thomas Final, l'anglais. Le combat a été arrêté dès le premier round avec un doigt dans l'œil reçu par l'anglais qui n'a pas pu continuer de se battre. Lui, donc, Thomas Final, conserve donc sa ceinture en attendant le report de l'événement. Et en boxe, vous y étiez, Philippe, avec Théo samedi soir. Bakary Samaké reste invaincu après sa victoire par KO samedi soir face à Alejandro Ortiz.
Ouais, au 5e round. Quel KO, hein. On y reviendra la semaine prochaine.
Exactement. Et donc, il s'est débarrassé du Vénézuélien, comme vous aviez dit, au 5e round. Une victoire par KO mémorable. Badminton, Philippe, avec une bonne nouvelle, une finale pour le français Christo Popov face au numéro 2 mondial Anders Andersen, le danois. Il s'est incliné, mais c'est sa première finale. Et puis les français donc médaillés de bronze aux mondiaux, Delphine Jiquel et Tom Delru. Delphine Delru, pardon, et Tom Jiquel, eux se sont arrêtés en quart de finale. On passe au sport collectif, ouais. Philippe. Rugby, 8e journée de top 14. Le Stade français s'est imposé 35-12 face à Montpellier. Et il est premier au classement général. Bah, ils peuvent remercier leurs voisins du Racing qui ont gagné à domicile contre Pau, 15-10. Le Racing se passe 4e. Allez, la section BHV maintenant. Donc, basketball, eh oui, Paris. Eh oui. Donc avec la victoire de Paris sur Chalon-sur-Saône hier, 107-67. Un peu plus tôt dans la semaine dernière, c'était la défaite de Nanterre face à l'ASVEL, 73-76. Au classement général donc de Betclic Elite, Monaco est leader, Paris est 5e. C'est bien ça.
Oui. Et il n'y avait pas d'Euroleague.
Si, excusez-moi. Ouais.
Alors on y va, donc on arrive à l'Euroleague.
Et donc en Euroleague, Paris 3e et Monaco 8e. Mm-hmm. Paris a joué un match donc, contre le Partizan Belgrade qu'il a remporté 100-83. Oui. Et Monaco, par contre, ben, défaite face à la Poel Tel Aviv, 77-85, qui lui, donc la Poel Tel Aviv, est leader de l'Euroleague. Mm-hmm. À noter que l'ASVEL a enregistré sa deuxième victoire en Euroleague cette saison en s'imposant à domicile 85-79 face au club, face à Dubaï Basketball. Voilà.
On part sur handball maintenant.
Et on part sur le handball. On commence donc par la Ligue des Champions. Le PSG perd encore pour la 6e journée. Les Parisiens se sont inclinés 36-34 face à Gounmeux et sont 6e du groupe B. De son côté, Nantes est 5e du groupe A après sa courte défaite face à Aalborg, 28-27. En revanche, en Liquid Movistar League, le PSG assure en championnat, toujours premier du classement après la 8e journée, grâce à sa victoire 38-33 contre Cesson-Rennes. Et puis en Ligue des Champions féminines, c'est toujours un sans faute pour Brest et Metz qui sont respectivement premiers au classement dans les groupes. Metz s'est imposé 27-24 face à Stoire et Brest 36-33 contre Icast. En championnat, première victoire de la saison pour le Paris 92 face à Besançon, un succès 25-23 qui fait du bien.
Ah oui.
Et nos Parisiennes sont 10e après cette journée. On termine avec du volleyball. Le Paris Volley s'est lourdement incliné 3-7-0 contre Tourcoing et Paris est donc 11e au classement, mais ce n'est que la deuxième journée, donc pas d'affolement. Nos Parisiens affronteront Toulouse ce soir chez les femmes, 4e journée du championnat. Déjà, et le Valois est 4e, donc avant le match.
Voilà. Merci Vanessa pour ce très dense journal des sports. Juste un petit mot de fin, Tristan. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la saison prochaine ?
En vélo, ouais. Un très beau Tour de France pour les hommes comme les femmes, comme pour les femmes, et puis une équipe de France qui va se diriger vers les sommets, parce que je rappelle qu'en 2027, on a les super championnats du monde en France, en Haute-Savoie. Donc ça va être vraiment les Jeux Olympiques du vélo, donc monter en puissance vers ce grand rendez-vous pour le cyclisme français.
Ouais, route et piste. Merci en tout cas, Tristan, d'avoir été notre
merci
invité.
Merci pour l'invitation.
Dans une émission très dense, comme chaque semaine. Merci à Jason pour avoir été une nouvelle fois très bien aux manettes. Salut Marius. Et puis on retrouvera l'équipe aussi la semaine prochaine avec Théo et puis Stéphane. Après leurs quelques jours de repos et de vacances. On vous laisse avec Au bout du foot et toute son équipe d'ici quelques minutes. Et nous, on finit en musique. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Belle soirée.
I saw who you were with, too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh, no, but she can't love you. She can't love you like I can. She can't love you.